Merci pour votre accueil, merci pour la joie, pour l'enthousiasme et pour la vie vraiment qu'il y a dans votre communauté, ça fait chaud au cœur. Il y a de la vie, on n'est pas dans un cimetière, hein, je crois que la majorité des chairs ont été crucifiées, elles sont mortes elles-mêmes, donc maintenant c'est l'Esprit de Dieu qui prend la place et quand il y a là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Pas pour faire n'importe quoi, on est d'accord, parce que la chair, elle est maligne. C'est que si on lui laisse un petit peu trop de place, ça prend le dessus. Donc il faut toujours quand même revenir à la croix, à l'équilibre. Voilà. Mais on n'a rien contre danser, crier. Voilà. La vie s'exprime aussi à travers ces choses-là. Donc vraiment merci pour la confiance de Pierre et Johanna aussi. C'est vrai qu'on ne s'est jamais vus. Mais il y a des connexions que l'on croit qu'elles sont conduites par le Seigneur. Et qu'elles permettent aussi l'édification du corps de Christ. Notre but, c'est cela. En tout cas, que quand on va partir tout à l'heure, on ait semé quelque chose. Les paroles en hébreu, c'est la même chose que de l'information, mais la même chose que de la semence. Et la mort et la vie sont au pouvoir de la bouche, vous le savez. Hein ? Ça, faites très attention dans l'éducation de vos enfants. Vous pouvez vraiment détruire la destinée de vos enfants rien que par vos paroles. J'ai un témoignage d'un ami, il avait, ça fait maintenant 30 ans que je le connais, mais je m'intéressais déjà au sujet du père, et puis dans sa vie, rien n'allait vraiment, il vivait dans une caravane, il n'avait pas de travail, enfin, vraiment la vie qu'on souhaite à personne. Et puis je m'intéressais au sujet du père, et je lui dis, écoute, Gilles, parle-moi de ton père. Est-ce que tu te rappelles de paroles que ton père t'a dites ? Il me dit, oui, je me rappelle de 3 paroles que mon père m'a dites. Généralement, les paroles positives, on les oublie. Mais il me dit ceci, tu n'arriveras à rien dans la vie, tu vivras sous les ponts, et quelque chose genre, tu n'auras jamais de travail. Je lui dis, waouh, c'est intéressant. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, et ta vie, franchement. Donc, ton père a semé des graines qui sont tombées dans une terre et elles ont porté du fruit. Donc, ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Alors, il y a eu tout un travail pour l'accompagner. Aujourd'hui, il est marié, il a une maison, il roule même, je crois, en Harley Davidson. Voilà. Mais pour dire que la mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Jacques dira, est-ce qu'il peut sortir des louanges ? Maintenant, on a louange au Seigneur, on parle de sa sainteté, tout ça, et dans la semaine, on commence à critiquer, des fois c'est des vulgaires, des fois c'est des choses comme ça. Non ! Il ne doit pas en être ainsi, mes frères et mes sœurs. De la même bouche ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau salée. Ce n'est pas mon propos ce matin de parler de la parole, mais c'est un thème que j'affectionne aussi beaucoup parce qu'il y a besoin de réforme dans nos vies. Besoin de réforme. S'il y a bien une réforme, il y a une réforme aussi au niveau des finances, mais Pierre a l'onction pour ça, mais il y a aussi une réforme au niveau du vocabulaire. On doit avoir un langage. Nous sommes les héritiers du roi des rois. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alors on ne va pas se prendre non plus pour des... Mais nous sommes les héritiers du roi des rois. Notre père, c'est le grand Dieu de l'univers. Nous sommes ses enfants. Regardez dans les familles aristocrates. Il y a le principe du vouvoiement qui crée un respect en fait, mutuel. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on va se vouvoyer, mais en fait, le vouvoiement permet un respect. Vous voyez ? Et des fois, dans nos rapports, on aurait tendance à être un petit peu trop familier ou se permettre certaines choses. Là aussi, il y a besoin. Dans l'amour, on peut dire les choses. Vous voyez ? Et tout ça, ça passe par la parole. La prédication passe par la parole, toutes ces choses-là. Donc, veillez, vraiment, c'est un encouragement ce matin, veillez à vos paroles. Veillez que ce que vous dites soit en accord avec la parole. Donc, je voulais parler je vais parler du cœur du Père, parce que c'est un sujet qui est très fort sur mon cœur. Bien sûr, par rapport à mon histoire personnelle, ça va de soi. On est toujours sensible à des choses qu'on a vécues. Et j'ai rencontré, Dieu a permis de placer sur mon chemin des pères spirituels. Il y en a un, on a chanté son chant là, « Nous voulons ta présence », c'est Claude Payan. Donc ce n'est pas un chant non plus qui date de la Réforme, hein. Mais il a écrit à la fin des années 90. Et donc c'est Claude Payan. Et c'est pour ça j'ai trouvé ce petit clin d'œil intéressant. Et Claude Payan a vraiment été un père. Je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, à l'âge où aussi on est en pleine construction, on a besoin de repères. Et on a besoin, comme Paul le dira, « Soyez mes imitateurs ». Je pense que Timothée, il dit même « mon enfant légitime ». C'est-à-dire il le considère vraiment comme son enfant. De toute sorte, il l'a adopté. Et il sait que Timothée, pour se construire, parce qu'il lui dira, peut-être c'était quelqu'un qui avait une personnalité assez fragile, il va dire « que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge ». Et dit « ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse ». Donc, Paul, en tant que père, il avait compris les quelques faiblesses et quelques failles. Et il dit, il a besoin, pour se construire, d'avoir un modèle. Un modèle, certainement, Paul incarnait très bien ce père. Et il dit, soyez mes imitateurs. Et il y a besoin dans l'Église d'hommes, aussi de femmes. Et il y a besoin de cette Église, c'est Julia Payan qui disait ça, qu'il y a besoin dans l'Église de trouver la partie du puzzle manquant dans nos vies. Vous savez, des fois, il y en a, ils n'ont pas eu leur mère, ou leur mère est décédée, ou ils n'ont pas eu leur père, ou alors ils n'ont pas de famille, carrément. Et ils viennent dans l'Église, on leur présente l'Église comme une armée, comme un corps, de ça, mais aussi comme une famille. Et dans cette famille, les nouveaux, ceux qui viennent, devraient être en mesure de trouver la puzzle manquante. Peut-être un père de substitution, peut-être une mère de substitution. Peut-être une tata, peut-être un tonton, des frères, des sœurs. Et c'est le rôle de l'Église. En même temps, les grands-parents sont là pour aider, accompagner les parents, éduquer les petits-enfants. Il y a tout ça. Et quand on est dans cette dynamique d'Église, de famille, tout le monde y trouve sa place. Il y a la vie aussi. Aux gens, je dis, c'est important de qu'est-ce qu'on communique en tant que parents, en tant que couple, à nos enfants. Parce que vous le vouliez ou pas, vos enfants vous voient vivre. Vous imprimez chez eux quelque chose qui, inévitablement, vont reproduire. Si vous mentez toujours, si vous critiquez toujours à table, pas surprenant que vos enfants après critiqueront. Ils ne font que reproduire. En soi, on ne peut pas véritablement inventer ou créer. Donc vous voyez, c'est important. Les enfants vont reproduire le bien et le moins bien. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à veiller, à faire attention. Et donc j'ai été éduqué par Claude Payan, qui m'a beaucoup éduqué au niveau de l'instruction, parce que pour moi, il représentait. Et on a besoin dans l'Église de trouver des gens qui incarnent ce masculin, qui incarnent ce père en lequel on peut trouver refuge. Et qui va en même temps nous éduquer, parce que c'est le rôle du père. Le père, il est là pour transmettre, pour communiquer, pour instruire. Et donc, du coup, ça m'a permis... avant même que nos enfants naissent, ma fille Rebecca et mon fils Siméon, d'avoir en quelque sorte été avertis à l'avance. Et on a permis avec mon épouse de créer un contexte dans lequel mon fils et ma fille soient vraiment aimés, soient vraiment valorisés. Et on ne les a jamais forcés à venir à l'Église, enfin jusqu'à un certain âge, mais ils savaient. Et le meilleur témoignage que tu peux avoir, c'est qui tu es. Ne compte pas sur l'Église pour convertir tes enfants. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, on est d'accord. Mais c'est ton témoignage, on en parlait de ça hier avec les amis, c'est donne envie aux enfants. Je disais ça dans une église où je prêchais il y a l'année dernière, c'est donnons aux gens qui nous voient vivre, donnons à l'extérieur un christianisme qui donne envie. Pas quelque chose de ronflonflon, quelque chose de décalé, quelque chose de triste. Enfin, ici... il n'y a pas grand-chose, vous avez vraiment la vie, il y a la vie, ça donne envie. Mais que nos vies donnent envie, les gens devraient nous voir et dire « mais tu as quelque chose, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est les gens qui vous voient vivre qui devraient être interpellés. Vous savez, en période de réveil, il n'y a pas besoin d'aller dehors. Les gens viennent parce qu'ils savent qu'ici, il y a la vie, ici, il y a des guérisons, ici, il y a l'Esprit de Dieu. Donc les gens viennent, ils se passent le mot, ça se fait tout seul. Et je pense, vraiment, je crois, hein, je ne dis pas je pense, je crois que vous êtes vraiment dans que la porte a été ouverte et que les choses vont vraiment, les choses sont enclenchées pour votre région. Et vraiment, vous vivez et vous allez vivre encore de belles choses. On va prendre ce texte de... Alors, c'est moi qui ai la diapo, mais avant de la mettre, je vais vous poser une question. Les évangiles s'ouvrent avec l'évangile selon Matthieu. Matthieu nous raconte une généalogie qui est très intéressante. J'espère que vous la connaissez par cœur. Pour apprendre par cœur, il n'y a pas trop d'intérêt non plus. Mais ce qui est intéressant dans cette généalogie, j'ai écrit un article dessus où je parle de la bénédiction du Père, où je parle de mon témoignage personnel. Mais vous savez, la génération dans laquelle on est aujourd'hui, beaucoup d'enfants vont naître sous X, ça va être inquiétant. Parce qu'on a besoin de savoir d'où on vient. On parlait de l'Église, par exemple les assemblées de Dieu ou les églises ménonites, tout ça. Elles ne sortent pas du chapeau. Elles s'inscrivent dans l'histoire de l'Église. Tous. Et on vient tous d'un tronc commun qui est ce que Jésus a annoncé des premiers disciples. Et on se greffe. Donc on a un arbre généalogique au niveau de l'histoire de l'Église. Et tous ici, nous avons, moi je suis, je ne vais pas dire passionné, mais j'aime la généalogie. J'ai réussi à remonter jusqu'à 1532. Mais je sais d'où je viens. Voilà. Et Jésus, on peut dire, il donne envie, parce que lui, son arbre généalogique, il arrive à remonter jusqu'à Luc, nous fait remonter jusqu'à Dieu. Donc Jésus sait d'où il vient. Ça c'est dans le judaïsme, on a un suivi de la généalogie qui est impressionnante. Et donc on a la généalogie de Jésus, on a la naissance de Jésus, et puis on arrive au chapitre 3, on a le baptême de Jésus. Et là, on a la première fois où un père va s'adresser à son fils. Tu es mon fils ? Mon fils bien-aimé. Et Jésus va passer dans les eaux du baptême. Et c'est un moment clé en même temps dans nos vies. Hein. Quand on passe par les eaux du baptême, c'est une date importante. On ne prend pas à la légère. Et voilà que Jésus descend dans l'eau et Jean-Baptiste va le baptiser par immersion, il va le plonger complètement dans l'eau. Et quand Jésus va remonter de l'eau, le ciel s'ouvre. Marc va nous dire le ciel se déchira, reprenant ainsi la prophétie d'Ésaïe. Ah, si le ciel se déchirait. Et la voix du Père va donner quelque chose à son fils. Alors je me suis dit, c'est quand même un événement important. Jésus va commencer son ministère, il va exercer son ministère pendant 3 ans, et ça va s'achever quand même d'une manière terrible. Il va se faire crucifier, tous vont l'abandonner, et il va mourir comme un brigand sur la croix. Donc c'est pas rien. Moi j'imagine, je sais ce qui va se passer, Jésus sait ce qui l'attend, je suis père, je regarde mon fils, je lui dirais, courage, tiens bon, vraiment ne lâche rien. Tu tiendras jusqu'au bout. Vous voyez, c'est ce qu'on peut imaginer qu'on dira à son fils. Il y a quand même un enjeu. Mais je trouve ça magnifique que le père va dire à son fils, et tout le monde va entendre, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » Vous pouvez applaudir. C'est bon. Dites-moi sérieusement, quand un père dit ça à son fils, un fils, il est prêt à tout démonter, là. Il est boosté, il est prêt à affronter tous les défis. Parce qu'il se sent aimé. Le père, nous parlions de ça avec Pierre Cangras, pour ceux qui le connaissent, qui était principalement au mouvement de Mâcon dans les années 2000. C'est un sujet qu'on affectionne énormément. Et Pierre on a beaucoup travaillé sur cette parabole de Luc 15. Par contre, il faut que je regarde l'heure. Il faut que quelqu'un me fasse signe parce que je n'ai pas commencé mon papier encore. Mais si vraiment je vois qu'il y en a quelques-uns qui baillent, si vous êtes vraiment captivés. Voilà. Et donc, on a travaillé sur cette parabole de Luc 15 ensemble où on a vraiment ciselé au plus juste. C'est pour ça que quand vous lirez la traduction qu'on a faite sur Luc 15, chaque mot est pesé. Et avec Pierre, on disait, c'est important que le Père, ou son substitut, puisse vraiment valider l'identité de son enfant en disant, tu es ma fille. Tu es ma fille. Et à son fils, tu es mon fils. Je ne me suis pas trompé. Tu es mon fils, le fruit de mes entrailles. Si. Tu es ma fille. Vous voyez ? Et quand le père atteste ça dans la vie de son enfant, je vous le dis, il n'y aura pas de problème d'identité en grandissant. Mais c'est le père, et c'est la responsabilité du père, de valider ça dans la vie de son enfant. On a toujours dit à mon fils, on ne s'est pas trompé. Puis vous savez, quand vous êtes à l'hôpital et que vous naissez, qu'est-ce qu'on va mettre sur le carnet de santé ? On va mettre sexe. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ils font, mais en tout cas, on est bien obligé de mettre le sexe. Donc voilà. Et vous savez, quand Dieu, Genèse 1, 26, 27, alors Dieu dit, faisons l'homme à Dama, c'est pas l'homme masculin, c'est l'être humain. Alors Dieu dit, faisons un être humain à notre image. Alors Dieu créa l'être humain à son image, et il le fit comment ? Surtout pas. C'est déjà plus intéressant. Masculin, féminin. Mâle et femelle, comme je dis, ça fait un peu les animaux. Nous, on a une chienne, c'est une femelle, mais j'aime pas. Et homme et femme, il y a un autre mot en hébreu. C'est pas homme-femme. C'est zarar ou nekeva. Dieu crée le premier être humain, il est zarar ou nekeva. C'est-à-dire masculin, féminin. Masculin, féminin, ce sont des principes. Ce sont des principes. Et je vais loin, mais je parle par conviction que tu as beau changer, de vouloir changer de sexe, il y a un principe que Dieu a mis en toi qui est, on va dire, gravé, encodé dans le génome, dans tes chromosomes, que tu le veuilles ou pas. C'est divin, c'est Dieu qui le met. Et ce principe qui est masculin pour les uns et féminin pour les autres, tu ne peux pas l'effacer. C'est pour ça que vous verrez certaines personnes qui ont beau changer de sexe, elles garderont ce masculin qui est imprimé. Tu ne peux pas l'effacer. C'est tout l'enjeu du diable, dans la génération dans laquelle nous sommes, de toucher à ça. Parce qu'en touchant à ça, qu'est-ce qu'il fait ? Le diable touche à l'image de Dieu. Comme Dieu est dans son essence masculin et féminin, et c'est vrai qu'à cause des représentations qu'on a, on imagine un Dieu paternel, un Dieu masculin, et c'est souvent parce qu'on est conditionné aussi par l'iconographie, entre autres à la chapelle Sixtine, où on voit Dieu qui crée Adam, comme ça, et c'est un long monsieur barbu comme ça, donc on a besoin, on est des êtres humains, on a besoin de personnifier. Mais Dieu, dans son essence, il est pleinement masculin, pleinement féminin. Il n'y a pas plus de masculin ou plus de féminin. Il faut toujours l'équilibre. Dieu est pleinement masculin, pleinement féminin. Parce que de l'union du masculin et du féminin, la vie, je disais hier, masculin-masculin ne peut pas engendrer la vie. Féminin-féminin ne peut pas. Et j'ouvre aussi une petite parenthèse. Dans le lieu très saint, il y avait deux chérubins. En hébreu, le mot c'est « shnaim ». C'est le même mot qu'on retrouve dans l'Arche de Noé, c'est-à-dire deux couples. De là, on comprend que les deux chérubins qui étaient sur l'arche, il y en avait un qui était mâle et un qui était femelle. Et ils étaient en union. Et de l'union sortait la voix de Dieu. C'est tout un enseignement, ce n'est pas mon propos. Mais pour dire que quand l'homme et la femme s'unissent en sainteté, parce que c'est des choses qu'on aborde rarement, peut-être même jamais dans l'Église, parce que ce sont des sujets délicats, mais je me permets pour peut-être aussi libérer des gens. Mais quand l'homme et la femme s'unissent, écoutez bien, en sainteté, la présence de Dieu est là. Et vous êtes même propre à entendre ce que Dieu veut pour vous, pour votre couple, pour vos enfants. Pourquoi ? Parce qu'on peut s'unir avec sa femme, de manière bestiale. On ne sait pas ce qui se passe dans les chambres, ça ne nous regarde pas. Mais peut-être, c'est pour ça que je me permets de le dire. Si tu sens, c'est plus généralement les hommes, c'est pour ça que je me permets de m'adresser à eux. On ne s'unit pas avec sa femme n'importe comment. Ta femme, ce n'est pas une prostituée. Tu ne fais pas faire à ta femme ce que tu vois dans les films. Tu ne fais pas ça. Et vous, femmes, soumettez-vous à vos maris. Non, non, non. C'est, tu te soumets, tu te places, c'est la traduction, on en a parlé, c'est la traduction que je vais utiliser. Tu te places sous l'autorité d'un homme qui te respecte, qui t'aime, qui te protège. Si ton mari te demande de faire des choses que tu ne veux pas, tu lui dis non. Et tu lui fais peur, tu dis non. Et je vais en parler au pasteur. On va lui demander son avis. Ça le calmera. Parce que ce n'est pas évident. C'est des choses qu'on n'ose pas en parler. Mais il faut des fois oser. Et dénoncer ces pratiques-là. La Bible en parle longuement. C'est tout un enseignement. Mais je voulais ouvrir cette porte, peut-être pour libérer quelqu'un qui... Souvent, quand on pointe certains péchés, en même temps, ça libère. Et si tout à l'heure, il y aura l'appel, tu veux, tu viendras, on va prier, ou je prierai, on verra, mais on priera pour ça. Donc, Dieu ne s'est pas trompé sur qui tu es. Dieu ne s'est pas trompé sur qui tu es. Et je veux vraiment, moi, ce matin, avec l'autorité que Dieu me donne, avec l'onction qui m'accompagne, je veux vraiment activer le féminin et le masculin. J'active le masculin chez l'homme. Que tu sois un homme pleinement épanoui dans ton identité. Que tu l'incarnes. Que tes enfants voient un homme, un père en toi. Que tu prennes ta place. Et que chez la femme, le féminin soit pleinement activé. Activation du féminin chez la femme. Épanouissement. Vous savez, même au niveau du prénom, j'ouvre une petite parenthèse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je demandais hier, pourquoi vous aviez appelé votre enfant Wesley ? C'est l'un des plus beaux. Je corrige. Ils sont deux au moins dans la salle. Sauf que le mien, il a un prénom tiré de la Bible. On ne va pas rentrer dans ce jeu. Elle a un prénom d'un homme qui a vraiment été un bénéfice pour l'Église. Mais pour dire que je m'intéresse souvent aux gens, leur prénom, je dis, est-ce que tu sais pourquoi on t'a donné ce prénom ? Il y en a, ils ont des prénoms, franchement, mon épouse me disait au travail l'autre fois, ils discutaient entre elles, il y en a, ils ont appelé leur enfant Lucifer. Je ne sais pas quel était le délire des parents, quelles étaient les motivations des parents, mais l'enfant, toujours est-il, il doit vivre avec ça. Donc, là, on est dans des cas extrêmes, mais pour dire que, avant de donner un prénom à vos enfants, posez-vous avec votre épouse et priez. Moi, mes enfants sont au clair. Rebecca, elle sait pourquoi on l'appelait Rebecca. Siméon, il sait pourquoi on l'appelait Siméon. Ils le savent. Et je pense que c'est important d'être en adéquation, d'être en phase avec son prénom. Vous savez, moi, je m'appelle Alexandre. Et j'ai demandé à ma mère, dit, pourquoi tu m'as appelé Alexandre ? Et à mon père aussi. Il dit, pourquoi vous voulez m'appeler Alexandre ? Donc, ils m'ont expliqué tout ça. Et Alexandre le Grand. Ouais, super. Mais en fait, j'ai été regarder... ce que c'est grec, Alex Andros. Alex et Andros. Donc Andros, ça vient de Anthropos. Andros, c'est l'être humain. C'est l'homme, mais au sens générique, c'est l'être humain. Et Alec, c'est celui qui aide, celui qui encourage, celui qui secourt, celui qui assiste. Vous voyez un peu tout ça. Celui qui aide les hommes. Quand, ça n'a pas été une grande révélation, mais j'ai dit, mais en fait... je suis en phase. En fait, mon prénom incarne qui je suis. Je n'ai aucun problème. Je suis en phase avec mon prénom. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il est un fondement dans cette église. Il est la pierre. Et c'est important. Vous voyez ? Johanna, qui vient de Jean, Johanne, la bien-aimée, tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc peut-être tu n'es pas à l'aise avec ton prénom, peut-être que voilà, tu as du mal. Là aussi, on peut prier pour ça. Vous pouvez demander la prière pour vraiment... le prénom, le prénom, il circule toute la Bible. Qu'est-ce qui se passe dans l'Apocalypse ? Je te donnerai même un nom nouveau. Vous voyez ? On va entrer dans Donc, je voulais quand même lire ça aussi, parce que ça fait partie du propos. Si vous voulez prendre une photo, vous pouvez. Mais je vais juste le lire et je ne vais pas forcément épiloguer. Mais... disons que dans votre église, ce qui est beau et ce qui est tout à l'honneur, et Johanna est une voix pour les femmes, c'est d'avoir fait lever des femmes. Et c'est super. Parce que pendant des temps de générations, les hommes ont voulu asservir les femmes, à vouloir les garder sous des foulards, à leur dire « femme, soyez soumise, tais-toi et reste assis », ou alors « elle est juste bonne à faire le ménage dans l'église », ou à la rigueur s'occuper des enfants. Non, il y a beaucoup plus que ça. Dieu a donné une grande promesse à la femme dans Genèse 3,15. Elle dit « t'écrasera la femme, elle écrasera le talon ». Elle écrasera le talon. C'est pour ça que les femmes ont beaucoup plus d'agressivité dans l'intercession, dans la prière et dans le combat spirituel. Parce qu'en quelque sorte, elle veut une revanche sur ce que le serpent lui a fait à l'Éden. Voilà. Mais ça, c'est dans l'essence de la femme. Et vous ne pouvez rien. Donc il faut leur rendre aussi cet honneur. Et qu'il y ait ce mouvement dont Johanna est l'une des voix avec d'autres femmes, c'est super. Et vraiment, moi, j'encourage, et quand je peux lui donner des pistes pour aller dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi qu'à côté de ça, il y ait un mouvement d'hommes qui se lève. Les hommes ont été pendant très longtemps démissionnaires, et ça a fait défaut. Et comme les femmes ont un instinct de maman ours, de maman poule, et mon épouse m'en parle souvent au travail, elle est beaucoup plus confrontée à des femmes qui doivent survivre avec leurs enfants. Parce que quand il y a une situation où quelque chose, l'homme prend la fuite, comme en Éden, le silence d'Adam, l'homme a pris la fuite et ça fait défaut. Mais la femme, ce n'est pas dans son essence. La femme, elle est prête à mourir pour ses enfants, elle ne lâchera rien. Et l'homme, en cela, a quelque chose à retrouver de sa responsabilité, de dire non, je ne permettrai pas, je vais protéger mon foyer. En cela, il est le chef, c'est-à-dire il est le responsable de faire venir la bénédiction sur la famille. Un homme comme ça, une femme, n'aura aucun souci à se placer sous sa bénédiction, sous son autorité. Croyez-moi, s'il y a des femmes qui contestent, vous venez me voir, on en parlera, et on priera pour vous. Actuellement, la crise la plus grave concerne cependant les hommes. Quand les hommes sont guéris, la guérison des femmes suit tout naturellement. Et il y a une raison importante à cela, c'est le père ou son substitut qui confirme son fils ou sa fille dans son identité sexuelle et qui l'établit par conséquent en tant que personne, en tant qu'identité de genre, est une partie vitale de notre personnalité. Comme nous le verrons, la masculinité n'est finalement pas une chose que l'on apprend, mais plutôt une qualité que l'on goûte et dont on fait l'expérience. Le masculin en nous est ranimé et béni par le masculin en dehors de nous. Il est aussi appelé à être, à grandir et à mûrir. D'une manière générale, nous avons affaire à des fils dont les pères n'ont pas été confirmés dans leur masculinité. Et ce manque remonte à plusieurs générations. Le père qui n'est pas établi dans sa propre masculinité ne peut convenablement confirmer son fils dans la sienne. Une masculinité non confirmée a chez l'homme des conséquences immédiates et graves. Elle le conduit à souffrir d'une mauvaise image de lui-même et de l'incapacité à s'accepter. Les hommes qui ne sont pas capables de s'accepter perdent, d'une manière ou d'une autre, leur pouvoir d'agir en tant que père, de mari ou de chef. En bref, dans un moins une partie de leur personnalité, ils demeurent immatures et deviennent de plus en plus passifs. Ce manque de créativité, quand il s'agit de prendre des changements nécessaires pour faire sortir leur famille et eux-mêmes des inévitables marécages de la vie. Pourtant, ils possèdent en eux le pouvoir de le faire. Les qualités et dons masculins sont présents, mais n'ont pas été appelés à vivre. C'est l'un de mes livres qui est dans mon top 5. C'est Lynn Payne, c'est une femme qui a écrit ça et je pense qu'elle a rendu un grand service à sa génération et aux hommes. Ça s'appelle La crise de la masculinité. Si le sujet vous intéresse, lisez, c'est un pur régal. Et cette femme a été en bénédiction pour bon nombre d'hommes. Il y a un masculin en toi qui a besoin d'être activé, qui est appelé à se manifester, qui ne l'a pas été parce que peut-être ton père n'était pas un modèle, peut-être parce que tu n'as pas eu de père. Et en cela, ce matin, moi je suis père, je suis même grand-père depuis maintenant un an, mais en tant que père, de ce que je représente, je veux vraiment aussi te réconcilier. Parce que peut-être tu as un père violent. Peut-être tu as un père qui ne t'a pas valorisé. Peut-être tu as un père qui n'a jamais pu te dire « Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. » Vous voyez, j'ai fait un séminaire il y a 2 mois. J'étais dans l'équipe de prière. La majorité des gens qui étaient dans la salle, c'était au moins des retraités. 65 ans, 70 ans, voire 80 ans. Donc c'était un public de gens qui avaient... Et on a parlé de ça. Le nombre de gens qui sont venus, qui ont pleuré, qui avaient besoin qu'on atteste qu'ils sont filles, qu'ils sont fils, et qu'ils n'avaient pas « mon père ne m'a jamais dit je t'aime, mon père ne m'a jamais pris dans les bras » à 70 ans. C'est-à-dire que vous laissez une cicatrice, ça ne va pas vous empêcher de dormir, ça ne vous empêche pas, mais il y a quelque chose en vous quand même qui est une blessure. Et ce matin, la bénédiction du Père, qui passe aussi à travers moi, mais à travers la prière, à travers l'onction, parce que c'est l'onction qui fait ces choses, elle est là pour guérir, pour te guérir. Ce n'est pas une fatalité dans ta vie, ce n'est pas une fatalité. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce matin, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Que Dieu vient te libérer, que Dieu vient te restaurer. Alors, on a lu ça. Et donc, on arrive à cette parabole de Luc 15, qui ferait l'office de tellement d'heures de méditation, de réflexion, mais on doit faire vite. Donc, je vais vous livrer juste quelques pistes. Jésus nous donne cette parabole d'un père qui a 2 fils. Donc si un homme, le texte dit bien un homme a 2 fils. Donc s'il a 2 fils, c'est un, ça va de soi. Et on peut se poser la question, alors pourquoi Jésus ne dit pas un père a 2 fils ? Qui a la réponse ? Pas évident, même moi je ne l'ai jamais trouvé. Hein ? Un homme a 2 fils. Donc s'il a 2 fils, c'est un père. Pourquoi Jésus ne dit pas alors un père a 2 fils ? Pourquoi Jésus dit un homme a 2 fils ? Il s'est trompé. On peut penser qu'il s'est trompé, mais de vous à moi, Jésus ne se trompe pas. Hier, on parlait de l'infaillibilité de la parole de Dieu, que toute écriture est inspirée dans les moindres mots, en tout cas dans le grec. Après, quand on traduit, il peut y avoir des fois... Mais le grec dit un homme, il ne dit pas un père, c'est un autre mot. Et en fait, je me suis interrogé, j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça ? Un homme avait 2 fils. Et j'ai dit, mais voilà. En fait, pourquoi Jésus utilise ce mot anthropos ? Parce que ce mot anthropos, c'est générique, en fait. C'est l'être humain, on dirait un être humain. C'est-à-dire que ce père... Il est aussi bien masculin, aussi bien que féminin. Il exprime les 2 aspects, du masculin et du féminin. On n'a pas un homme, enfin un père qui est pleinement masculin. C'est pour ça que Jésus utilise ce mot pour introduire. Anthropos, je vais développer après, avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de l'être qui me revient. » Et leur père leur partagea. Vous n'avez pas de traduction qui traduise comme ça. Parce que les traducteurs n'ont pas osé. Le mot grec, bios, vous êtes d'accord que la biologie, qu'en fait de la biologie, vous étudiez la vie. Donc, bios, c'est la vie. Donc moi, j'ai osé. Avec Pierre, on a dit, on prend le risque. Parce qu'en même temps, pour lui, ça a ouvert une fenêtre. Il a toute une série sur... grâce à ce mot, quand je lui ai dit, écoute, est-ce que j'ose de traduire comme ça ? Parce que c'est à 2 tranchants, les gens ne vont pas comprendre. Iousios, le premier, la part de l'être, Iousios, c'est l'être, c'est vraiment l'essence de qui il est, c'est des termes qu'on retrouve en théologie, et il leur partage à sa vie. Je ne développe pas. Mais le plus jeune, en quelque sorte, va dire à son père, déjà, c'est-à-dire, c'est un père qui va accepter de mourir pour que son fils fasse sa propre expérience. Quel père ferait ça ? Et le plus jeune, en quelque sorte, va dire « Moi, je veux vivre ma vie. Moi, je veux vivre ma vie. » Et agissant ainsi, en fait, il va se couper de la vie. Il pense qu'il va avoir la vie. Il le pense jusqu'à un certain point. Quand vous avez de l'oseille plein les poches, tant que vous avez l'argent et les amis et que vous pouvez payer les 500 euros au resto, claquer tout ça, ça va. Simplement, ça, c'est éphémère. Quelques jours plus tard, après avoir tout rassemblé, le plus jeune fils partit pour un pays lointain. Le pays lointain. C'est saint Augustin qui disait que ce pays lointain, c'est l'oubli de Dieu. C'est-à-dire, on ne veut pas de ça. Nous, on veut vivre notre vie. On ne veut surtout pas que Dieu vienne nous embêter ou vienne nous interférer. Ou voilà. Il part là-bas. Et il se mit à dilapider son être en menant une vie sans limite. Quand il eut tout dépensé, comme par hasard, survint une famine sévère dans ce pays-là et il commença à manquer. Il y a des mots très intéressants que j'ai soulignés après. C'est dans cette parabole, à la fin, au verset 24, il est dit « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et je disais hier que le mot « perdu » il a toujours un sens spirituel dans la Bible, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce fils, dans la parabole, s'étant coupé de son père, il est en quelque sorte mort spirituellement. Il n'est pas mort physiquement parce qu'il est vivant, mais il est coupé de la vie. Ce qui fait que le père peut dire « mon fils était mort ». Et le père le savait, ça. Il était conscient, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Je dois vraiment compresser ce que je veux dire. Cette parabole de Luc 15, vous la connaissez tous, du père et ses deux fils. On a trois personnages principaux dans cette scène. On a le fils cadet qui part et qui se repent et qui revient. On a le fils aîné qui vit mal le retour de son frère. Et puis on a le père. On a trois personnages. Quel est le point commun entre les deux frères? Oui, bien sûr qu'ils ont le même père, il n'y a pas de souci là-dessus. Allons un peu plus loin. Quel est le dénominateur commun entre les deux fils? Ils sont frères, oui. Mais le docteur Johanna a saisi. Il est... Il faudrait développer. C'est juste, ils ne sont pas dans la maison. Vous avez remarqué que le fils cadet, il quitte la maison. Il en a ras-le-bol, il veut vivre sa vie. Il quitte la maison. Se coupant de la maison où le père réside, il est mort spirituellement. Et quand vous lisez la parabole, clac. Regardez, or le fils, son fils, l'aîné, il était où? Il était dans les champs. C'est marrant, j'avais relevé ce détail. Pour ça, quand vous avez une traduction qui est vraiment rigoureuse, vous pouvez faire ça. Moi, j'en découvre encore. Le fils aîné était où? Et le fils cadet, il est où? Verset 15, il alla s'attacher à l'un de ses citoyens, je ne sais pas qu'il l'envoyait travailler où? C'est bizarre, hein? Bon, on va aller un peu plus loin dans la réflexion. Ce fils aîné, c'était le premier héritier. C'est-à-dire que cet homme, ce père, il a visiblement une bonne situation, parce qu'il a des terres, et en même temps, il a des serviteurs. Il a des serviteurs qui travaillent pour lui. Donc c'est un homme, on pourrait dire, c'est un propriétaire d'un grand vignoble qui a les moyens et il emploie. Dites-moi, le fils aîné, où devrait-il plutôt être? Il devrait plutôt administrer pour que le jour où son père va partir, il puisse reprendre l'exploitation et que ça tourne. Ça, c'est la responsabilité qu'un fils digne de ce nom aîné devrait avoir. Or, ce fils aîné, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il fout au champ? Qu'est-ce qu'il fait dans les champs? Et j'aime dans cette parabole, c'est que le père ne s'initie pas dans la vie en disant « il faut que tu sois là, allez rentre, viens déjà ». Il les laisse libres parce qu'il faut que le frère, la situation dans laquelle tu fasses ton expérience, que tu tires des leçons dans ton expérience. Il était au champ. Et quand il revient, alors là, c'est insupportable pour lui. Insupportable pour lui. J'ai relevé quelques caractéristiques de l'aîné. Je vous le dis, ça sera en même temps la conclusion. Dans cette parabole, on a trois personnages. On a l'aîné, enfin le cadet premier, qui se coupe de la vie, qui veut vivre sa vie. Qui veut vivre sa vie et Dieu t'en voudra pas. Dieu t'en voudra pas. Mais à un moment, quand tu vas voir que en fait, t'es pas heureux et que là où tu étais, il y avait la vie et tu étais en sécurité, tu vas commencer à réfléchir. Quand tu seras dans la boue, tu seras tout seul. Tu vas réfléchir, ça va cogiter. Et là, tu vas te dire, il faut que je revienne. Il faut que je revienne. Je parlais avec une jeune, il y a deux semaines. C'est une fille de chrétienne, elle doit avoir 25 ans. Donc ses parents sont chrétiens, elle a toujours baigné là-dedans. Et puis je parle avec elle. Je lui dis, comment ça va ? Tu es avec le Seigneur ? Je la prenais à la connaître. Elle me dit, oui, je suis la fille de... Ah, d'accord, super. Je lui dis, t'en es où avec le Seigneur ? Elle me dit, je reviens au Seigneur. Je reviens au Seigneur. Et je lui pose la question, je lui dis, tu reviens comme ça ? Ou tu reviens, tu sais qui c'est qui t'attend, et à la rigueur, tu cours. J'avais lu ça dans un livre, j'avais trouvé très beau. Quand un pécheur fait un pas vers le Père en fait mille. C'est beau. Donc, n'attends pas. Et ça fait partie, mon fils donnera un témoignage tout à l'heure. Je parlais avec quelqu'un qui sortait de prison. Et je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sortir ? Tu vas aller où ? Je lui dis, tu vas aller chez tes parents ? Il me dit, certainement pas. Mes parents m'ont renié, mes parents ne veulent plus entendre parler de moi. Il dit, je suis sûr que si je rentre, ils ont changé la serrure. Et j'ai parlé avec deux, trois personnes comme ça. Ça m'avait déstabilisé. J'ai dit, mais en fait, des parents arrivent à renier leur enfant parce que leur enfant peut-être est dealer dans la drogue et l'enfant a voulu faire son expérience. Il a vécu une vie de patachon, mais à un moment, voilà, il a compris qu'il s'était trompé et il a besoin de revenir. Écoutez, si ce jeune, si ce fils ne sait qu'il ne peut pas aller dans la maison de ses parents, mais où va-t-il aller ? Où va-t-il aller ? Quand j'ai compris ça, mon fils a aussi fait son expérience, il a fait l'expérience du fils cadet. Et je réfléchissais sur cette parabole, et cette parabole, je ne peux pas dire m'a sauvé la vie, mais m'a éduqué. Ce fils est cadet, il est dans la boue, il pense, il dit combien de gens sont dans la maison de mon père, ont du pain en abondance, tout ça. Il dit je me lèverai, j'irai vers mon père. C'est-à-dire qu'il connaissait le cœur de son père, il savait que bien qu'il ait fait les 400 coups, que son père néanmoins allait l'accueillir. Il avait imprimé une image positive de son père. Et j'ai toujours dit à mon fils, je lui ai dit, tu feras tes expériences, mais sache, avec sa mère, on lui a toujours dit, avec mon épouse, on lui a dit, la maison sera toujours ouverte. On vous sera toujours là pour vous accueillir. Sinon, on n'est pas des parents dignes de ce nom. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, c'est une mentalité à adopter. Et dans votre vie, tous à un moment, on a été fils cadet, on l'a tous été. Qu'on le veuille ou pas. Et on est revenu à la maison du Père, le Père nous accueillit. Et tous, à un moment, on est aussi le fils aîné. On l'est aussi tous, le fils aîné. Et il y a cette dualité en nous. Ça ne veut pas dire que toute notre vie, on va jongler entre le cadet et l'aîné, le cadet et l'aîné. Non. J'ai lu un livre qui m'a bouleversé. Il fait partie de mon top 5 aussi. Et cet homme prend ces trois personnages et dit c'est un cheminement de la vie chrétienne. Il dit, tu es fils cadet, on l'a tous été. À un moment, on revient au père. Puis à un moment, on est tous fils aînés. Il y a des choses qui nous irritent, il y a des choses pour lesquelles il y a besoin d'être traité. Le but, c'est que tu deviennes un père. Un père, une mère. Là, je m'adresse à tout le monde. Le but, c'est que tu deviennes ce père, cette mère, qui tous les gens qui vont venir dans cette église, peut-être d'autres églises, peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis 10 ans et vous aviez appris qu'ils faisaient n'importe quoi, que cette église, j'ai une image qui est très belle, des fois les images sont plus parlantes, que votre église soit comme ça. Jacques dira, celui qui couvre le péché, hein, ne divulguez pas, soyez une église qui couvre, une église qui protège, une église qui accueille. C'est une église qui a compris et qui a adopté la mentalité de père. Donc, peut-être, tu te dis, oui, mais moi, le fils cadet, maintenant, ça fait à l'église, je suis revenu, tout va bien, moi, j'aime le Seigneur. On va faire un test, voir si peut-être il y a encore quelques germes du fils aîné. Et peut-être que dans l'un de ces caractéristiques-là, tu vas te retrouver. On va prier pour ça. Ce n'est pas un souci. Ben, on ne va pas chasser des démons. On va prier pour que tu deviennes, que tu reconnaisses. C'est important la confession, de reconnaître, Seigneur, dans ma vie, là j'avoue que tu m'interpelles et il y a ça et ça qui ont besoin d'être corrigés. Vraiment, Seigneur, travaille. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Après, quand on le laisse faire, sinon le Saint-Esprit ne s'inimitie pas. Vous dites, moi je reconnais vraiment Saint-Esprit, agis. Et vous le laissez faire et on prie pour que vraiment vous incarniez maintenant, vous soyez des pères et que vous n'adoptiez pas ces deux mentalités qui sont terribles. Le fils aîné, il n'est jamais content, il rechigne. Il n'a pas la joie. Tout l'irrite. Il se plaint toujours. Peut-être pour ça que les gens te disent juste bonjour, ils n'osent pas trop entamer trop de discussions avec toi. Non, pas ici. Il juge son frère. Quel regard tu as sur ton frère ? Est-ce que tu as le regard du père ? Ou tu as un regard de compassion ? Si tu juges, il va falloir que tu corriges ça. Il est immature. Et ça, je veux le souligner, parce que c'était aussi un détail qui est très intéressant. Regardez au verset 31. Je veux quand même... Quelle heure il est ? Moins 20. Bon, ok. Ouais. C'est important ce que le fils aîné va dire. Il va dire, verset 29, « Mais prenant la parole, il dit à son père... Voilà tant d'années que je t'ai servi comme esclave. » Ah oui, dans ma traduction, c'est pas ça. Le mot grec « douléo », ça vient de « doulos », ça vient aussi d'esclave. Ça dépend des traducteurs. On peut traduire « esclave » ou « serviteur ». On va dire « c'est arbitraire », mais ça dépend du contexte. Quand Paul va dire « Paul, esclave de Jésus-Christ », il y en a qui vont préférer « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». Personnellement, je préfère « Paul, esclave de Jésus-Christ. » Parce que c'est quoi un esclave ? Un esclave ne s'appartient plus à lui-même. Il a un maître et il obéit. C'est-à-dire sa vie maintenant appartient à son maître. C'est un esclave. Positivement, nous on a toujours des clichés de l'esclave enchaîné qui est la misère. Ce n'est pas ça. Il est esclave. Mais dans certains cas, il peut être traduit serviteur. Mais dans le cas de Paul, quand il le dit, je trouve le mot esclave a tout son sens. Douléo. Ce que va dire ce fils aîné à son père, il dit, moi, voilà tant d'années, ça fait 30 ans que je suis dans l'église et je t'ai servi comme esclave. Ah, c'est intéressant. Il justifie son travail d'esclave. Est-ce que le père est en mesure de demander, mais c'est toi qui as fait le travail d'esclave ? Moi, jamais je t'ai demandé ça. Tu as adopté une mentalité d'esclave alors que je ne te l'ai jamais demandé. Je n'ai jamais transgressé à tes commandements, fidèle, impeccable, tu ne m'as jamais donné un chevreau. Et quand celui-ci qui a dévoré ton bien, le mot est fort, hein, dévoré, c'est bestial, c'est dévoré ton bien, avec des débauchés. J'avais mis prostituée avant de réviser. Prostituée. le fils aîné va dire à son père, il dit, ouais, ton fils, c'est même pas mon frère, ton fils a été avec des prostituées. Alors si on dit des prostituées, si je traduis des prostituées, on peut comprendre vulgairement, il était au bois de Boulogne. D'accord ? Mais le mot est beaucoup plus fort. C'est des débauchés. C'est-à-dire, on peut le comprendre d'une manière neutre, masculin, féminin. C'est-à-dire, ça ouvre la porte à la débauche sexuelle. Ton frère a été dévoré, ton bien avec des débauchés. Moi, je vous pose la question. Il est dit que le fils aîné partit pour une terre lointaine. Comment le fils aîné il sait qu'il a été voir des débauchés ? Comment il le sait ? Comment il le sait ? Est-ce qu'il a été, il est parti lui aussi pour surveiller son frère ? Comment il le sait ? Les pères de l'Église nous donnent, c'est les pères du désert qui nous disent ça. Il dit, on voit souvent chez les autres nos propres péchés. C'est fort, hein ? C'est très fort. Donc fais attention. Et le père va lui dire, verset 11, mais il lui dit, enfant, et vous prenez vos Bibles, vous verrez, mon enfant, mon enfant. Le problème, c'est que si tu dis mon enfant, on va comprendre que le père, c'est affectif, va dire, mon enfant, tu es toujours avec moi. Vous savez, le mon, c'est possessif. Le problème, c'est qu'en grec, vous ne l'avez pas. Donc, moi, s'il n'y est pas, je dis, ben, je ne vais pas le mettre. Et qu'est-ce que ça va changer dans ma lecture ? En fait, ça ouvre une autre lecture. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les traductions, mais ça ouvre une interprétation. C'est un fils aîné. Et le père va le qualifier. Va le qualifier enfant. C'est pour ça que j'ai mis ici, il est immature. Si tu as la mentalité de fils aîné, tu es immature. Tu as beau avoir 30 ans de vie chrétienne, tu es un enfant. C'est un qualificatif, c'est-à-dire tu raisonnes encore comme un enfant. Et tu n'es pas dans la maison, tu es coupé, parce que les deux sont coupés de la vie. Et tant que tu n'es pas dans la maison, regardez ici, verset 29, « Il se mit en colère », si tu es souvent colérique, ça peut être aussi un signe. « Il se mit en colère et ne voulut pas entrer », il est hors de question. Mais son père étant sorti, le suppliait. « Le père jamais ne te forcera ». Jamais. Il te respecte. Il te supplie simplement. Il fait pression. Mais le père ne dit pas, il te prend par le colbac et il dit, tu rentres. Ça, c'est ta responsabilité. Il est immature. Et comme disait, la caractéristique de l'aîné, c'est qu'il a une mentalité d'esclave au lieu de celle d'un fils. Et si vous prenez vous relisez la parabole, même le fils cadet, quand il revient, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un serviteur. Même lui avait adopté une mentalité d'orphelin, une mentalité de serviteur, plutôt que d'être réhabilité en tant que fils. Veillons à ça des fois, à ne pas nous sous-valoriser. Dieu veut nous accueillir en tant que fils et en tant que fille. Et il voit ses propres péchés, c'est les autres. Donc, c'est le parcours que nous incarnions tous, hommes, femmes, que nous incarnions tous ce Père, plein de compassion, plein d'amour. On connaît tous ça. Et j'ai mis un zoom sur la parabole, le tableau de Rembrandt. Pour ceux qui le savent, Rembrandt a soulevé ce magnifique détail des mains. Il y a une main masculine et une main féminine. Vous voyez, il l'avait relevé, c'est-à-dire qu'il avait réfléchi sur le texte. Et alors que je réfléchis à ce texte, je vais terminer sur le côté féminin. Là, c'est pour donner de la matière à Johanna. C'est dans la parabole, je vous ai dit que Anthropos, cet être humain, il est pleinement masculin et pleinement féminin. Et en fait, c'est comment décoder dans la parabole le côté maternel. J'en ai relevé trois, ça sera très vite. C'est le premier mot, anthropos, qui est justement masculin et féminin. C'est l'attente même du père qui attend sur le bas de la porte. Le texte ne nous dit pas combien de temps le père l'a attendu. Hein ? Mais en tout cas, c'est ce qui revient dans les trois paraboles, la brebis perdue, la drachme et le fils, il attend jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et je crois que Dieu va lever, que Dieu lève des vrais ministères de bergers, des vrais pasteurs, une nouvelle génération de pasteurs qui ne sera plus dans la même configuration de celle d'avant. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Et cette nouvelle génération de pasteurs vont être de ceux qui cherchent, qui sont près des brebis, dont la priorité, ce n'est pas prêcher le dimanche matin, c'est d'être au plus près des brebis, pour entendre, pour guérir, pour restaurer, pour prier avec eux, jusqu'à... Et je sais qu'ici, il y a des intercesseuses, il y a aussi des intercesseurs, j'imagine. En tout cas, j'ai vraiment senti l'intercession et la prière fervente dans cette église. Eh bien, c'est un encouragement. Ne lâchez rien. Jusqu'à. C'est la leçon aussi des trois paraboles. Jusqu'à ce que vous ayez vu. Et ça, c'est féminin. C'est féminin. Parce que qui c'est qui attend quand l'enfant il s'en va, il est parti en soirée, tout ça? Qui c'est qui attend généralement qu'il soit rentré à la maison pour s'assurer que tout le monde est bien? C'est le père ou la mère? C'est plus la mère. Ça, c'est maternel, c'est féminin. Donc ce père qui attend le fils, il exprime le côté féminin, le côté maternel. Et il est dit que quand le père... Quand le fils revient, le père ouvre et il court vers son enfant et il le couvre de baisers. Et le père est remué dans ses entrailles. Ça, c'est le côté féminin chez Jésus qui est magnifique. Ému de compassion, ça veut dire quoi? Je terminerai par là. C'est être remué dans ses entrailles. Ce que Chouraki va traduire, Dieu matriciel. El Harum. Harum, vous savez ce que c'est? C'est la matrice, c'est l'utérus. C'est là où ça vous prend aux tripes. Et quand le père voit le fils qui revient, il est humé dans ses entrailles. C'est le côté féminin qui s'exprime chez ce père. Il est remué. Laisse-toi saisir par les entrailles de Dieu. Oh, vraiment! Laisse-toi saisir par les entrailles de Dieu. Peut-être si la louange veut venir... Non, je vais venir. Si vous voulez bien vous mettre debout, voilà, il n'y a rien de protocolaire, hein, vraiment. Mais on a conscience que Dieu est présent, que Dieu est dans ce lieu. Et que le Saint-Esprit agit, Saint-Esprit opère. Il ne veut pas que tu repartes comme tu es entré. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à ce changement? Est-ce que tu veux?
Les équipes de prière sont...
Ok, donc il y a des équipes de prière qui sont là. Et je vais faire plusieurs appels simultanément pour pas... Déjà, si tu t'es senti repris dans la parabole, tu viens, on priera pour toi, avec ton prénom, avec ton identité. Si tu t'es retrouvé dans le fils cadet, et que tu veux revenir pleinement dans les bras du Père, les équipiers, ou même moi, on a les bras grands ouverts, sans aucun jugement. Et on va t'accueillir, on va prier, on va pleurer avec toi. Mais n'attends pas, nous t'accueillons. Et si tu t'es retrouvé dans ce fils aîné, tu dis là vraiment, j'ai honte de moi en fait, mon comportement est pitoyable. Franchement, j'aspire à autre chose de mieux. Eh bien, c'est bien de le reconnaître. Là aussi, tu viens et on va prier pour toi, pour que tu adoptes véritablement une mentalité de fils aîné digne de ce nom, respectable. Et s'il y en a qui aspirent vraiment à homme ou femme, il n'y a pas de distinction, qui veulent vraiment devenir ce père, qui incarnent ce Père, aussi bien pour leurs enfants, parce que peut-être dans ta vie, ça n'a pas été tout rose, et là aussi, je le joue un autre appel, si tu as manqué d'amour de ton Père, si tu as été dévalorisé, si tu as manqué d'amour, tu as manqué de protection, si tu n'as pas été validé dans ton identité, viens, on va prier pour vous, je vais prier pour toi et je vais attester qui tu es. Voilà, j'ai dit pas mal de choses et vraiment pendant la louange, voilà, vraiment sentez-vous libre. Venez, venez, on va prier pour vous.